Bonjour Michel Kazatskine.
Bonjour.
Vous êtes donc l'un des 11 experts internationaux choisis pour conduire cette enquête internationale indépendante sur la gestion du coronavirus à travers le monde. L'OMS, qui est à l'origine de cette démarche, a tenu une réunion extraordinaire lundi et mardi. La mise en place de cette mission d'enquête a été décidée en mai dernier. Où en est votre travail aujourd'hui ?
Le travail vient de commencer. Il y a 15 jours, le panel s'est réuni pour la première fois. Comme vous l'avez indiqué, il y a 11 membres du panel et puis deux coprésidentes de ce panel, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, Hélène Clark, et l'ancienne présidente du Liberia, Hélène Sirleaf Johnson.
Vous venez de le dire, vous commencez tout juste à travailler. C'est une enquête internationale qui va donc s'intéresser à la façon dont la crise a été gérée partout à travers le monde. Est-ce que vous vous attendez à ce que les pays collaborent tous de bonne grâce ?
Les pays s'y sont engagés. Nous verrons à l'expérience ce qui se passe, puisque nous allons interroger, rencontrer de nombreuses personnes dans de nombreux pays. Nous irons aussi enquêter à l'OMS, et l'OMS s'est engagée à mettre à notre disposition tous les documents, enregistrements, e-mails de son fonctionnement interne. Donc nous partons en tout cas sur de bonnes bases à partir des déclarations qui ont été faites jusque-là.
Est-ce que les pays également se sont engagés à vous ouvrir toute leur documentation, tout ce qui a été fait, décidé? J'ai lu quelque part l'engagement d'un certain nombre de pays à ce que vous puissiez accéder à livre ouvert à ce qui a été fait.
Absolument. Pour l'instant, je ne peux pas parler d'expérience, ouais, puisque nous n'avons pas encore été en contact avec des pays. J'aimerais rappeler que le but de cette enquête, le but de ce panel, c'est d'établir, pour dire les choses simplement, pourquoi une infection à un nouveau virus respiratoire apparu quelque part en novembre ou décembre 2019 en Chine, à Wuhan, est devenue en quelques semaines une pandémie à l'échelle mondiale. Pourquoi, alors que, après le SARS, l'Ebola, le H5N1, le système international s'était réorganisé pour se préparer à de nouvelles épidémies et à de nouvelles urgences sanitaires, pourquoi cela s'est produit? Où ont été les failles? Quelles leçons faut-il tirer de cette nouvelle pandémie, non seulement en termes d'impact sanitaire, mais aussi, puisque c'est une des caractéristiques de la Covid-19, en termes d'impact sociétal, économique et humain.
Même si ça n'est pas votre intention, Michel Kazatskine, vous venez de le dire, le but c'est de comprendre, les conclusions de cette enquête pourraient-elles aboutir à l'établissement d'une sorte de hiérarchie entre les pays qui auront le mieux et le moins bien géré cette crise sanitaire ?
Ah, il est clair qu'il y a des différences dans la façon dont les pays ont répondu à la crise sanitaire. Nous allons analyser ces différences, en particulier dans la façon dont les pays qui ont plus ou moins bien répondu ont suivi, n'ont pas suivi les recommandations de l'OMS et dans quel délai. Au moment où nous parlons, bien sûr, je ne peux pas porter de jugement, j'entre dans ce panel avec impartialité.
L'objectif donc de comprendre, on l'a dit, les erreurs peut-être, les lenteurs, les failles. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer, puisque finalement il s'agirait de pouvoir mieux répondre à une nouvelle crise de même nature, est-ce qu'on peut vraiment imaginer une réponse mondiale à une crise sanitaire de ce type? Est-ce qu'on peut croire que les égoïsmes nationaux disparaîtraient comme par magie?
Alors c'est une question bien difficile que vous posez. Ce qui est clair, et je pense apparaître immédiatement à chacun et à chacune des personnes qui nous écoutent, c'est que nous sommes interdépendants dans un monde globalisé. Donc notre santé comme citoyen français ou suisse, je me trouve à Genève, est interdépendante de la santé de nos voisins et de la santé planétaire. Les pandémies le montrent bien. Donc il y a quelque part une tension ou un paradoxe quelque part entre les États qui souhaitent une souveraineté absolue en termes sanitaires et cette interdépendance qui fait que nous ne pouvons pas être en sécurité nous-mêmes dans notre espace national si le monde autour de nous n'est pas en sécurité.
La question sanitaire n'est-elle pas suffisamment prise en compte ou prise au sérieux par les dirigeants de ce monde, contrairement par exemple à d'autres menaces comme le nucléaire ou les armes chimiques ?
Absolument, je vous suis tout à fait dans cette analyse. Je pense qu'il y a quelque chose d'un manque de prise en compte, de prise de conscience de ce que représentent les urgences sanitaires. Et on voit bien avec le Covid que l'urgence sanitaire n'est pas seulement sanitaire. Elle se décline ensuite en urgence sociale et en urgence économique. Et elle ne donne pas lieu à une solidarité internationale semblable à ce que, par exemple, ont établi des traités concernant les armes chimiques ou le nucléaire. Dans le nucléaire, chacun sait que les pays acceptent, plus ou moins volontiers, mais acceptent des inspections indépendantes pour vérifier les données qu'ils communiquent aux organismes internationaux. Ce n'est pas le cas pour l'instant dans le domaine sanitaire. Les pays apportent les données qu'ils souhaitent au moment qu'ils souhaitent. Ces données ne peuvent pas être vérifiées par des inspections indépendantes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra absolument essayer de changer à l'avenir.
Comment allez-vous travailler ? Comment vont se répartir les tâches entre les 11 experts internationaux ?
Alors, nous nous sommes donné un plan de travail. Ce plan de travail s'articule autour de trois questions. Quel était l'état de préparation du monde avant l'irruption du Covid, et comment et à quel point le monde avait pris en compte les leçons que nous avions tirées de l'Ebola et du SARS et des pandémies précédentes. La deuxième question que nous allons nous poser, et bien sûr la plus délicate, c'est que s'est-il passé au juste ? C'est-à-dire nous allons établir un chronogramme précis des événements et en face de ces événements de la réponse des différents pays et de la réponse bien sûr de l'OMS et des Nations Unies en général et des organisations internationales. Et puis la troisième question, c'est alors que faut-il encore changer pour l'avenir ? Nous allons nous répartir ces différentes questions à la fois entre panélistes, entre membres du panel et surtout dans le temps, bien sûr.
Voilà, parce que, mais on a quasiment plus de temps, mais il faut le dire, l'OMS qui a validé cette enquête sera elle-même finalement au cœur de l'enquête. Elle pourra être l'objet de critiques ou de récriminations éventuellement.
L'OMS a été très critiquée par des pays qui n'ont pas beaucoup suivi dans l'ensemble ses recommandations. Bien sûr, l'OMS va être au centre de cette enquête et l'OMS sera probablement au centre de l'objet des restructurations et des propositions que nous ferons à la fin du panel.
Merci Michel Kazatkine. Merci, bonne journée.
Merci à vous.